savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'un peuple? Est-ce une langue, une religion, une communauté de destin? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Un film sorti mercredi nous emmène dans un territoire qui a eu droit malheureusement, aux unes des journaux il y a quelques mois à peine. Il s'agit du Haut-Karabakh. Ce territoire grand comme un département français, une enclave montagneuse située en Azerbaïdjan, mais de population arménienne. Au moment de l'explosion de l'URSS, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance. C'était en 1991, ce qui a conduit à un premier conflit. 3 ans plus tard, en 1994, un cessez-le-feu fut signé. Le Haut-Karabakh se rebaptise République d'Artsakh, mais l'État n'est reconnu par aucun pays. Et c'est à Stepanakert que débarque un jour un Français, joué dans ce film par Grégoire Collin, chargé de dresser un audit de l'aéroport pour savoir s'il peut ou non ouvrir. Le film, c'est « Si le vent tombe ». C'est le premier long-métrage de Nora Marty-Rossian que nous avons la joie de recevoir en studio aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler donc de « Si le vent tombe » à l'affiche de notre cinéma également cette semaine. Un autre long-métrage, celui d'une autrice de bande dessinée, Nine Antico, avec « Playlist ». On ira à Mayotte, où un ancien étudiant de la FEMIS a initié au cinéma des lycéens passionnés. Et puis en Italie, faire le point de la réouverture des salles.
Monsieur Deloche, quelle joie de vous recevoir. J'arrive, ne bougez pas. Monsieur Deloche, Coyon Androssian, directeur de l'aéroport.
Santé, monsieur Androssian.
Appelez-moi Coyon. Et si vous permettez, moi, je dirai Alain.
Je vous le permets.
Vous avez fait bon voyage?
Oui, c'est vrai que 8 heures de route après l'avion, c'est un petit peu long.
C'est long. Et c'est notre seule route. Alors, comment vous trouvez notre petite cathédrale aéroportière?
Et c'est bien, oui. Très bien. Et depuis la route, j'ai pu voir les deux ailes de chaque côté de la tour. Ouais, c'est très réussi.
Et n'est-ce pas? Et encore, vous n'avez rien vu. Venez, je vous fais visiter.
Voilà, Alain Delage, alias Grégoire Collin, est accueilli comme un hôte de marque par le directeur de l'aéroport de Stepanakert, un aéroport flambant neuf, hein, ils le disent, c'est une cathédrale aéroportuaire, il y a donc un directeur, une tour de contrôle, du personnel, mais aucun avion, aucun passager. Nora Marty-Rossian, votre film « Si le vent tombe » a pour décor cet incroyable aéroport. Alors, tout d'abord, le film était prévu pour sortir en salle en novembre dernier. Il y a eu le deuxième confinement, le Covid. Et puis, ce nouveau conflit armé qui a fait, je le disais, la une des journaux, un conflit entamé, enfin lancé par l'Azerbaïdjan avec l'appui de son allié turc et qui a remis cet état enclavé arménophone du Caucase sur la carte géopolitique. Votre film, vous l'avez senti douloureusement d'actualité?
Oui, c'est ça. Je pense que le film, il contient cette violence, cette possibilité de violence. Tout au long, le film ne cache pas cette possibilité. Au contraire, ça rôde dans la forêt, ça rôde dans les champs. Mais on ne pouvait pas imaginer que le conflit il va s'éclater là et qu'il va être d'une telle violence et qu'il va être soldé d'une telle manière. Ça, je pense que même dans nos suppositions les plus osées, on n'aurait pas imaginé.
Soldé, c'est parce que effectivement le Haut-Karabakh a été contraint de céder des terrains. Il y a des villageois, on le sait, qui sont partis avec juste leurs vêtements sur le dos. Des villages abandonnés.
Tout à fait. Il a les gens dans les films, par exemple toute la partie, tous les villages, les champs. Ils devaient quitter leur maison dans une espèce de 15 minutes. Et c'est ce qui existe aujourd'hui dans le film. C'est le seul mémoire. de ces lieux pour ces habitants-là.
Et vous avez pu retourner là-bas pour la sortie du film? J'imagine que c'était très très compliqué.
Alors, la sortie du film était prévue le 1er novembre en Arménie. Et la guerre s'est éclatée, donc on a repoussé. Donc la sortie était en Arménie le 10 mars. Mais là, comme il a les forces de paix russes qui sont sur place, comme il a régulièrement les enlèvements sur les routes, comme les deux armées qui sont pas du tout en paix, ils cohabitent dans un sort de territoire absolument pas défini. Donc on a jugé que c'était trop dangereux d'y aller. Mais voilà, on espère que les choses vont se calmer et cet été, on va pouvoir présenter le film à Stepanakert.
L'aéroport dans lequel vous avez tourné, c'est pas un décor, ça existe vraiment?
Oui. Oui, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Moi, je suis allée au Karabakh pour la première fois en 2009 et je me suis dit, mais c'est incroyable, le pays est là, il a les villes, les villages, le parlement, le président, il a tout. Mais si on regarde sur Google Maps, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, il a une sorte d'incohérence incroyable parce qu'il a les villes, par exemple, que je vois et qui sont pas, qui n'existent pas sur Google Maps.
Effectivement, j'ai fait la recherche, ça n'apparaît pas sur Google
non,
Maps.
Non, parce qu'en fait, c'est l'Azerbaïdjan qui donne les informations à Google, sauf que l'Azerbaïdjan, il n'a pas mis le pied sur ces territoires depuis 30 ans, jusque-là, récemment. Et là, il a vraiment bien mis le pied. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement incroyable, c'est l'existence de ces pays, cette existence qui est non-existence en même temps. Donc, comment est-ce que je peux raconter ça dans une fiction? Je commençais d'écrire, j'avais un français archéologue qui débarque là-bas, j'avais plein d'idées différentes et il avait je ne sais pas combien de versions de scénarios. Et je pense 2 ans plus tard, je dois partir donc au Karabakh et je suis chez mes parents à Yerevan. Et mon père, il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu y vas encore toute seule? Et je dis, bah, je sais pas, moi, j'aimerais bien juste rencontrer les gens de l'aéroport. Et il me dit, mais je connais très bien le directeur. Et donc, voilà, j'étais reçue par le directeur d'aéroport avec beaucoup de générosité. Et donc, je vois cet aéroport. 40, 50 employés, tous les matins, vient là-bas. Il a toute une équipe qui est chargée de nettoyage de cet aéroport.
Qu'on voit dans le film, d'ailleurs.
Bon, ça, c'est plutôt une comédienne. Donc voilà, il a les gens qui viennent. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, en fait, toute la journée. Parce que, voilà, ils font la météo. Ils vérifient si les infrastructures marchent. Et je me suis dit, ça, c'est un symbole de ces pays. C'est un symbole de ces pays qui cherchent un envol et qui est empêché dans cet envol. Et donc, c'est ça qui a mis l'aéroport au centre de ma fiction. Un aéroport existant dans le centre d'une fiction qui raconte la fiction d'un pays.
Et vous, vous êtes plasticienne à l'origine, Nora Martirosyan?
Oui, j'ai commencé comme peintre en Arménie soviétique. Je fais les études de beaux-arts et puis je continuais à Amsterdam dans l'Académie d'art. Et petit à petit, mes objets devenaient... quand j'ai découvert le mouvement, le son, la vidéo, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, on peut mettre tellement de choses dedans. Mais j'avais pas l'ambition de faire le cinéma. Je me souviens, en 2003, c'était mon premier court-métrage qui était montré dans les grands festivals. Et donc, j'ai eu le Grand Prix à Belfort. Et je me souviens, moi, je savais même pas comment ça se passe. Il y a eu les journalistes qui sont venus vers moi et ils m'ont dit, mais oh, c'est formidable, votre travail. Alors, pour quand le long-métrage? Je les regarde, je dis, bah, je sais pas, pour l'instant, 18 minutes, ça me suffit pleinement de raconter ce que j'ai envie de raconter. Donc, en fait, c'était pas une idée de passer de court-métrage au long, mais c'était plutôt quand j'ai rencontré l'énormité de cet endroit, je me suis dit, c'est pas possible autrement. Il faut faire un film de fiction, long-métrage ici. Parce que rien d'autre peut être à la hauteur de cette fiction que le pays propose.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une nouveauté, Loudoyon, Cat Power, avec ce titre It's You. It's still you. Oh, it seems hard to believe. It's still you. I'm talking about, yes, wherever I stutter, you know, with you. And I know for a fact.
it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Nora Martirosyan, dont le premier long métrage, intitulé Si le vent tombe, vient de sortir en salle en France. On y suit un expert français, alias Grégoire Collin, venir à Stepanakert, dans le Haut-Karabakh, étudier en détail le fonctionnement de l'aéroport pour savoir s'il peut ou non ouvrir.
Vous dites aéroport de Stepanakert. Deuxième jour. Tour de contrôle, entretien avec les contrôleurs, les licences sont à jour. La colline a été abaissée de 25 mètres pour que les approches puissent se faire depuis l'Arménie. Sinon, j'ai revu le gamin sur la piste. Ça veut dire que les grillages n'ont pas encore été réparés. On va vérifier dès demain. Système d'atterrissage aux instruments. La pente d'approche est cohérente par rapport au relief. Par contre, s'ils ont un pépin, l'avion devra survoler la ligne de cessez-le-feu. Ce qui pose un problème. Ils sont vraiment dingues de vouloir ouvrir cet aéroport.
Voilà, là, c'est le deuxième jour donc d'audit hein, de Alain Delage, Grégoire Collin, qui le dit, ils sont vraiment dingues, mais il va se prendre au jeu. Il étudie très sérieusement hein, ce fonctionnement.
Oui, pour écrire le scénario du film, je rencontrais plusieurs auditeurs pour comprendre en fait c'est quoi les données techniques qui peuvent empêcher l'ouverture d'un aéroport. Et donc en fait, voilà, il les accumule. Et chaque fois, il est face à un problème, ça lui semble que ce problème est surmontable. Donc les grillages ne sont pas réparés, comme on a entendu dans l'extrait. Et puis après, il a le problème de la direction de la piste, et puis il a le problème de feu. Et puis, voilà, donc il accumule tous ces problèmes, et petit à petit, il commence vraiment de se prendre au jeu. Et il a envie que cet aéroport se rouvre. Sauf que dans son audit, la case de plus grand problème n'est pas marquée. Donc en fait, il est inconscient que le problème ne vient pas du tout de, voilà, des cases à cocher, mais il vient d'ailleurs.
Mais en fait, est-ce que votre film, c'est pas finalement l'histoire d'un regard qui se transforme ? Parce que cet aéroport, en fait, on s'aperçoit qu'il représente finalement des tas de choses différentes pour chacun. Pour lui, donc cet expert, c'est une série de normes, voilà, de cases à cocher ou pas. Pour les gens du village, c'est à la fois symbolique et en même temps c'est très important de pouvoir avoir la liberté de voyager. Pour le petit garçon dont on parlera tout à l'heure, c'est encore autre chose. Et on a l'impression que finalement, c'est son regard à lui qui change. Et c'est ça que vous aimez raconté dans ce film, et entre autres filmé sur le visage de ce comédien extraordinaire qui est Grégoire Collin.
Ça fait partie de but, donc cet changement de regard. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important en fait. Ça veut dire quoi un avion ? Ça veut dire le droit de se déplacer. Et le droit de se déplacer, c'est un droit qui est normalement censé être accordé à chaque être humain. Et aujourd'hui, ce droit de se déplacer, voilà, on témoigne tous les jours à quel point ce droit n'est pas respecté. Donc l'aéroport, premièrement, il symbolise voilà, le fait que s'il a des avions, on peut partir et on peut revenir. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, donc je continue dans votre sens. Effectivement, Alain Delage, c'était très important pour moi d'avoir un personnage occidental qui vient là-bas. Parce qu'en fait, les films qui viennent D'ailleurs, on les regarde un tout petit peu comme les petits bijoux, mais vraiment dans un musée ethnographique. Tandis que c'est ce que j'ai voulu, c'est de remplacer l'action et le regard d'occidental à l'intérieur de là-bas, qu'ils ne le visitent pas comme un musée ethnographique. Et donc, le regard d'Alain qui arrive là-bas un peu comme touriste, Alain Delon, voilà comme on l'appelle quand il traverse la frontière, il n'en a rien à faire ni avec ses pays, ni avec ses peuples. Et effectivement, au contact avec les gens différents, avec les expériences différentes, son regard devient plus attentif. Et à un moment donné, comme beaucoup d'Occidentaux, il pense qu'il peut changer les choses. Donc en fait, il se croit suffisamment puissant, parce qu'en plus tout le monde autour lui dit ça, il se croit suffisamment puissant pour aider. Voilà. Et c'est là où notre pauvre Alain rencontre sa propre limite.
Quand il parle, au tout début, il parlait d'avoir fait 8 heures de route et il a débarqué à Yerevan, c'est ça ?
Oui, bon, c'est ça.
Comment on accède ? Parce que donc, y a l'aéroport, on l'a compris, est pour le moment fermé, peut-être encore pour de longues années. Comment on accède ? Comment il a accédé ? Par ce fameux corridor de Lodchine dont on a entendu parler à l'automne dernier ?
Oui, tout à fait. Alors, on arrive à l'aéroport de Yerevan. Et de l'aéroport de Yerevan, il a 7-8 heures de route pour passer d'abord par le vallée d'Ararat, donc sur la frontière de la Turquie, et puis descendre dans le sud pour accéder, traversant plusieurs canyons, le Haut-Karabakh, le Stepanakert. Il a 2 ans, donc juste avant que je tourne le film, une autre route de nord a été construite pour accéder à Haut-Karabakh. Et quand on a commencé de tourner, en fait, l'équipe de production locale, il essayait de me convaincre. Ils m'ont dit, non, mais tournons la séquence sur l'autre route parce que c'est plus simple d'accès, elle est meilleure, etc. Et je lui ai dit, non, c'était ça la route historique qui liait le Karabakh avec l'Arménie. Et l'autre s'est fait, voilà, pour des autres raisons. Et du reste, en fait, aujourd'hui, après la signature de cessez-le-feu le 10 novembre 2020, la route du nord, elle est restée à l'Azerbaïdjan. Les Arméniens n'ont plus accès. Et donc, c'est encore cette route-là, cette route du sud, qu'on doit prendre pour arriver au Karabakh. Sauf qu'aujourd'hui, sur la frontière, il y a les militaires russes.
On comprend mieux, hein. Et puis en voyant votre film aussi, tout l'aspect presque cartographique, on va y venir, hein, du territoire. Alain Delage, il représente, vous le disiez, c'était important de choisir un occidental, il représente à lui un peu la communauté internationale,
ouais.
En un sens.
Ouais. Il représente la communauté internationale qui est pas très consciente, en fait, des choses qui se passent là-bas. Je suis assez étonnée en regardant ça fait des années que j'habite en France, mais voilà, j'écoute des nouvelles. Et on dit en arménien, plus tu parles les langues, plus tu es homme. Donc, dans le sens que, voilà, moi, je parle quelques langues. Si j'écoute les nouvelles en russe et si j'écoute la façon comment on peut parler des mêmes événements en français ou en anglais, c'est pas du tout la même histoire. Et en fait, Alain Delage, il est super, hein, c'est un gars très bien. Comme je disais à mon directeur de casting, en fait, je cherche quelqu'un. Alain Delage, c'est quelqu'un de normal. C'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de normal. Et donc, il arrive avec cette idée occidentale normale que voilà, il vient de pays de riches vers un pays de pauvres. Et son arrivée là-bas, quelque part, le transforme pour devenir un homme peut-être un tout petit peu plus attentionné, qui va se taire peut-être plus qu'il va parler.
Et qui va peut-être aussi, sans divulgâcher, commettre quelques folies. Il y a Alain Delage et puis il y a ce petit garçon dont parlait Elisabeth, un Edgar, qui remplit chaque jour 2 bidons d'eau, qui monnaie une eau présentée comme miraculeuse. Ça aussi, c'est très mystérieux, très poétique. C'est quoi cette eau ?
L'idée de Haut-Karabakh, ça tient sur une fiction. Et donc, pour moi, cet aéroport un peu fictif, avec Alain Delage qui vient, qui va faire tous ces trucs, mesures techniques, qui finalement ne sert pas à grand-chose, ça permettait d'amener le regard occidental dans cet endroit-là. Mais en fait, le Karabakh, il était là avant que l'occidental arrive, il va être là après qu'il repart. Donc c'était important pour moi aussi de montrer quelque part l'esprit de ce pays, mais par le même biais de fiction. Donc en fait, pour moi, cette eau miraculeuse, c'est aussi une fiction. En fait, si on veut vraiment y croire, on va en boire et on va se sentir mieux. Elle va devenir vraiment l'eau guérissante, c'est ça? Et donc le petit garçon, quelque part, il vend le rêve.
Et on comprend à un moment pour le pays combien cette certification de l'aéroport est capitale.
Alain, il faut que vous compreniez ce que représente cet aéroport pour notre pays. Voyez-vous, nous sommes persuadés d'une chose. Dès que cet aéroport fonctionnera, que de Stepanakert, on pourra s'envoler vers Moscou ou Paris. Dès ce jour-là, la communauté internationale sera obligée de nous reconnaître. Les yeux de tous les pays sont rivés vers vous.
Imaginez que le rapport soit négatif.
Il ne le sera pas.
Ah.
En tout cas, on ne vous demande pas de faire votre rapport à la télé.
Même si je le voulais. Il me faut l'accord de mon cabinet pour m'adresser aux médias. Vous comprenez ?
Écoutez, Alain. Notre peuple a vécu une tragédie inoubliable. Moi-même, je suis petit-fils d'orphelin du génocide. Ils voulaient nous effacer de la surface de la Terre. Non seulement nous, mais effacer même les traces, la mémoire de notre présence. C'est pour ça que je suis venu m'abattre. Pour garder cette terre. Et protéger la mémoire de ceux qui ont péri. Cette guerre d'indépendance, ici, a encore fait de morts. Dans chaque famille. Mais on a su se relever malgré tout. Le Haut-Karabakh n'est pas sur vos cartes. Mais le pays existe. Avec ses champs de blé, avec des écoles, un président, une constitution. Et votre travail ici est une autre preuve de notre existence.
Nora Martirossian, on comprend donc qu'il y a évidemment un intérêt géopolitique à l'ouverture de l'aéroport, mais au-delà, en fait, c'est presque existentiel. Il y a un aspect presque philosophique, en fait.
C'est ce que la fiction raconte. Et si on croit à la fiction, la réponse est oui.
Non, mais ce rapport à la mémoire, au génocide, qui n'a, je le rappelle, toujours pas été reconnu par la Turquie plus de 100 ans après, qui est reconnu par la communauté internationale, et d'ailleurs, dernièrement, par le président américain, ça c'était aussi historique. J'imagine, mais on sent que c'est inscrit, le fait de ne pas disparaître. C'est en cela que je disais existentiel.
Oui, on a l'impression qu'en fait, le peuple arménien, il témoigne toujours avec l'intervalle de 50 ans, 100 ans, un tout petit peu en même histoire. Une tentative d'effacement et puis une sorte de renaissance et puis une autre tentative d'effacement. Et voilà, donc évidemment, je pense qu'un peuple, il se fabrique des autres armes quand c'est dans son mémoire génétique. Donc, de se renaître des cendres, je pense que voilà, ça s'est déjà produit et peut-être ça va encore se produire.
Pourquoi avoir choisi ce titre, Nora Martirossian, Si le vent tombe ?
Le film, il avait un autre titre pendant le temps de tournage, qu'on aimait bien aussi. Mais quand j'ai terminé le montage, j'étais déjà sur l'étalonnage, donc le film, il était prêt. On se demandait est-ce que c'est le titre le plus juste. Et je me suis dit, c'est important qu'il ait le conditionnel dans le titre, parce que le pays, il est inconditionnel, et l'avenir de ce pays est conditionnel. Donc, le film maintenant s'appelle « Si le vent tombe » et les derniers événements, ils sont bien montrés qu'effectivement, on a vu ça juste, le pays était dans le conditionnel.
Il y a une explication très concrète hein, quand on voit le film. S'il y a un problème de vent, si j'ai bien compris, vous allez me dire, les avions civils devraient pouvoir faire demi-tour pour se mettre dans le bon sens. Mais comme le pays est cerné et qu'il y a la ligne de cessez-le-feu toute proche, c'est très compliqué.
Alors, il y a plusieurs explications techniques, qui se rajoutent, dans ce film, il y a toujours une couche un peu plus, on va dire, philosophique. Et puis après, il y a les explications techniques. Effectivement, si le vent tombe, par exemple, le feu qui peut devenir un danger pour l'aéroport, le feu va cesser de se propager. Si le vent tombe, les avions, ils vont pas être obligés de faire le détour, et donc ils vont pouvoir atterrir directement sur la piste, etc., etc. Mais la chose la plus importante est, si le vent tombe, peut-être il aura la reconnaissance pour ce pays.
Alors, vous êtes plasticienne à l'origine, on le disait, hein, Nora Marty-Rossian, et ça se sent, en fait, vous filmez les paysages comme un personnage. Il y a souvent des questions d'échelle. On voit des personnages, des voitures très petites le long des routes, sur fond de ces fonds de montagne. Il y a un côté presque cartographique, une façon de faire comprendre au spectateur presque de manière sensorielle la façon dont c'est organisé, mais de s'inscrire dans ce paysage.
Alors, par exemple, si je fais demain un film dans un café aux Champs-Élysées, j'ai pas besoin de décrire qu'est-ce que ça veut dire Champs-Élysées. On a tous une petite idée là-dessus. Tandis que quand je dis au Karabakh, je pense que personne n'a aucune idée. Donc, en fait, la vocation du film, c'était aussi de décrire et de faire découvrir un espace qui ne ramène pas dans notre mémoire aucune image. Donc, en fait, c'est d'inventer les images. Quand demain vous allez entendre au Karabakh, j'espère que vous allez voir les images de mon film.
Est-ce que c'est le premier film qui tournait au Karabakh?
Oui, c'est le premier film de fiction tourné et vu vraiment à l'extérieur. Il y a eu des autres films arméniens qui étaient filmés, mais c'était plus pour un public intérieur. Mais c'est un premier film international qui est allé au Festival de Cannes. Et il faut quand même le dire, la dernière fois, il avait un film arménien au Festival de Cannes, en 1965, quand c'était encore l'Union soviétique. Donc c'est une grande aventure aussi pour le cinéma arménien.
Et du coup, ça a été célébré comme tel quand vous y êtes allé
Ah non, mais tout à fait, tout à fait. Le fait que je sois de Yerevan, oui, là, de l'ombre, et je suis arrivée tout de suite dans la lumière. Donc c'était très drôle.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ça peut du coup stimuler, enfin justement, et cette sélection, effectivement, le film a reçu le label Cannes 2020, la sélection de l'Acide aussi du cinéma indépendant. Est-ce que ça, vous avez le sentiment que ça peut stimuler l'industrie cinématographique déjà en Arménie?
Comme on voit très bien, la culture, c'est la chose la moins essentielle. Donc, en fait, dans un pays où les gens n'ont pas grand-chose à manger, ce n'est pas nécessairement leur premier souci. Donc, il y a quand même la culture en Arménie essaie de survivre malgré le fait qu'elle n'est pas très bien financée. Mais oui, j'espère. Et puis, j'essaie de faire mon maximum aussi pour aller rencontrer les jeunes, pour expliquer comment est-ce que moi, je peux faire ce chemin-là. Parce que là d'où je viens, d'art plastique, sans vraiment réseau, sans vraiment connaissance de cinéma, d'avoir arrivé de faire ces films, c'est aussi un petit miracle. Donc, c'est possible. Donc j'espère qu'il y aura des autres films intéressants, forts arméniens.
Et ça vous a donné envie de continuer cette expérience de premier film? On a bien compris que c'était l'histoire vous a habité pendant presque 10 ans avant de vous mettre à la tournée. Mais est-ce que du coup ça vous a donné l'envie de raconter d'autres histoires?
Alors pendant le premier confinement, avec ma co-scénariste Emmanuelle Pagano, qui est écrivaine, on a commencé d'écrire une nouvelle histoire. Et puis la guerre est arrivée. Et quand ton pays vit une guerre pareille, je pense que tu comprends aussi quelles histoires peuvent être essentielles et lesquelles ne sont plus possibles pour toi. Donc je fais cette expérience, je pense que je suis en train de chercher si j'ai vraiment quelque chose à raconter aujourd'hui d'aussi important, parce que ça prend beaucoup d'années de faire les films. Et de le faire sur une anecdote, ou sur une petite histoire, je pense que je ne vais pas pouvoir tenir si longtemps. Donc voilà, il faut voir est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'essentiel à raconter qui fait sens pour moi et pourquoi je peux tenir. Mais voilà, j'espère que ça sera le cas. Et puis d'autre part, je trouve que c'est voilà, cette première expérience de film, c'était tellement joyeux, c'était tellement fort. C'est très bon en fait quand tu tournes et quand tu as un pays qui est non seulement ton décor, en fait, oui, c'est ton décor, c'est un pays ton décor, et tu te sens tout puissant. Tu peux faire la pluie et le beau temps, tu peux faire déplacer les gens, tu peux faire brûler les champs, et là tu dis ah ben là arrêtez le feu dans les champs, ah là maintenant je veux bien que l'aéroport s'allume ou la piste s'allume. Donc en fait cette sensation de tout puissance est extraordinaire. Donc voilà, je conseille à tout le monde comme une remède contre la dépression
de faire du cinéma.
Ah ouais, c'est très bien de faire du cinéma.
Et vous avez, outre Grégoire Collin, que l'on connaît bien ici, mais ce ne sont que des acteurs professionnels ou vous avez, que l'on voit dans votre film, Si le vent tombe?
Il y a 4 acteurs professionnels pour les rôles où je ne pouvais pas faire avec les gens, les habitants. Donc là où il y a beaucoup de textes, donc le directeur d'aéroport que vous entendez, vous avez entendu tout à l'heure, il ne parle pas un mot de français.
Ah bon? Incroyable.
Il est incroyable. Ouais. Et tout est appris phonétiquement. Et comme c'est moi qui ai enregistré avec ma voix tous les répliques pour tous les comédiens, en fait, ils parlent tous avec mon accent. Donc, c'est assez drôle. Voilà, donc 4 comédiens et les autres personnes dans le film, c'est les gens que je croisais sur mon chemin pendant mes 10 ans d'aller-retour et que je trouvais important pour moi. Et quand je cherchais les comédiens, par exemple pour la grammaire, j'ai fait les castings, les comédiens de théâtre, de cinéma, etc. Et puis finalement, je suis revenue vers la grammaire, la mère de mon copain David, qui est dans le film aussi, qui a toujours fait pour moi à manger voilà, pendant mes voyages.
C'est ça, cette atmosphère très amicale que vous avez senti. Et comme vous le disiez, Nora Marty-Rossian, ce film, Si le vent tombe, c'est aussi un témoignage presque de ce qui n'est plus, en fait. Ouais. Donc ça doit être très émouvant, même pour tous ceux qui sont dans le film, de le voir à nouveau.
Je pense qu'on n'était pas prêt à ce changement de situation et on apprend encore comment le regarder. Moi, j'apprends aussi comment en parler. Voilà, on est au début de chemin et j'espère que le film va vivre une longue vie. Il va encore nous apprendre de choses.
Merci Nora Marty-Rossian. Vous restez encore un peu avec nous. Nous allons feuilleter le journal du cinéma avec Elisabeth et l'actualité du 7e art. Mais après ce titre, hein, le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, c'est November Ultra et ce titre, Miel.
For days inside my mind, can't find a way to work it out. 'Cause I don't really want us to, but I don't really want us to break. Yeah, I gon' let you go so soon, even though I know there is no future for you and me. It's you. You against me, you will be better without me. You and me, I don't think that we were meant to be. 'Cause you and me on me,
you will be. Tous les cinémas du monde, c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth. Un journal qui commence ce samedi par la France et les résultats de la première semaine d'exploitation des salles après 7 mois de fermeture. Carton plein, hein, Elisabeth, n'est-ce pas?
Oui, alors malgré une jauge à 35%, les salles ont très bien tiré leur épingle du jeu. Alors grâce peut-être à la météo hein, épouvantable de ce mois de mai, mais tant mieux. 300 000 spectateurs se sont rués dans les salles, donc mercredi 19 mai, le jour de leur réouverture. Et en tout, on compte 1 600 000 spectateurs en 5 jours, hein, donc c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire du cinéma français. Et deux grands gagnants, Adieu les cons, d'Albert Dupontel, et Mandibule, de Quentin Dupieux. Et vous nous disiez tout à l'heure, Nora, hors micro, que votre film avait lui aussi très très bien marché.
Non, mais c'est trop tôt de le dire. Je dis juste qu'il est diffusé dans quelques dizaines de salles partout en France.
Et plus de salles encore mercredi prochain.
Ouais, et c'est prévu. Voilà, j'espère que la vie du film va être longue et elle va partir dans tous les coins de France.
Les salles rouvrent en France, mais ferment à Taïwan.
Oui, à cause d'un accroissement soudain des chiffres, enfin des cas d'infection, alors que l'île, jusqu'ici, avait été épargnée par l'épidémie et même d'ailleurs citée en exemple pour sa gestion exemplaire de l'épidémie.
Et pendant ce temps, Fast and Furious triomphe en Chine.
Oui, c'est Fast and Furious 9, donc F9 pour les fans, qui a empoché 136 millions de dollars en 3 jours. Donc c'est un record pour un film hollywoodien en Chine.
En Italie, la reprise, elle, tarde pour les salles de cinéma. Elles ont rouvert leurs portes un petit mois avant la France, c'était le 26 avril. Bonjour Anne Tréca.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondante en Italie et vous confirmez que les spectateurs boudent le grand écran, c'est une déception.
Eh oui, en Italie, le cinéma est vraiment revenu sur la pointe des pieds. Malgré l'enthousiasme de la presse, la réouverture des cinémas devait marquer la sortie d'un hiver de longues soirées confinées, mais les spectateurs ne se sont pas précipités dans les salles. Des salles d'ailleurs qui en fait sont beaucoup restées fermées. Beaucoup d'exploitants ont été découragés par leurs obligations, ici comme ailleurs, une jauge fixée à la moitié de la capacité de la salle, l'interdiction de vendre du pop-corn ou des confiseries, ça compte, les masques, le gel désinfectant, et puis surtout le couvre-feu, à 10h du soir, ce qui met la dernière séance possible à 19h30, c'est bien trop tôt pour les Italiens. La culture du cinéma ici, c'est un spectacle de soirée. Au temps de la Dolce Vita, on allait au cinéma à minuit, après le dîner, et personne n'a envisagé sérieusement d'avoir du public à 6 ou 8 heures du matin, comme ce que vous avez vu, vous, en France.
Alors, quels sont les films, Anne, qui ont fait sortir les Italiens de chez eux ?
Eh bien, ça, c'est l'autre problème. Il n'y avait pas grand-chose à offrir le 26 avril. Des salles ont puisé dans le catalogue, on a programmé un vieux film de Nanni Moretti. La vérité, c'est que les grands films sortis depuis un an étaient disponibles en streaming, comme Nomadland par exemple, avec un Lion d'Or et 3 Oscars, qui s'est tout de même placé en tête du box-office, mais sans drainer des masses de spectateurs. Beaucoup de gens l'avaient déjà vu à la maison, confinés sur leur canapé. Même chose pour la dernière comédie de Carlo Verdone et du concentré de bonne humeur, toujours très apprécié, mais là aussi disponible en ligne. Alors, tout le monde attendait le week-end dernier 13 nouveaux films annoncés sur les écrans. Le Mauvais Poète, un film italien qui raconte les dernières années de Gabriele D'Annunzio, a détrôné Nomadland. Le film de Thomas Vinterberg, Another Turn, a bien marché aussi, mais en nombre de tickets vendus. Eh bien, le cinéma en Italie, c'est plutôt le grand sommeil. Et puis, il faut dire qu'après des mois de bataille contre le Covid, le public n'est peut-être pas très attiré par les trames dramatiques qui caractérisent une bonne partie des nouveaux films à l'affiche.
Et du coup, les professionnels prévoient un retour à la normale, mais pour quand ?
Sans doute pas pour maintenant et probablement pas pour l'été, même si on s'attend à ce que le couvre-feu soit retardé, ce qui permettra aux organisateurs de projections en plein air d'entrer en scène. La jauge sera plus élevée, le risque de contagion moindre pour ceux qui encore craignent les salles de spectacle, mais ça ne changera pas vraiment la donne. L'an passé, souvenez-vous, après le premier confinement, la réouverture des cinémas en juin avait été poussive et on s'y attendait. Par tradition, les Italiens vont peu en salle pendant l'été. Le coup d'envoi de la nouvelle saison, il est donné début septembre sur les tapis rouges de la Mostra de Venise.
La Mostra de Venise qui se tiendra début septembre prochain. Merci Anne Tréca. On revient à vous Elisabeth. Netflix le voulait, mais c'est un autre géant du streaming qui l'a eu. James Bond est tombé dans l'escarcelle d'Amazon.
Oui, et James Bond est bien plus que James Bond, puisque Amazon en fait vient d'avaler la MGM, donc le mythique studio hollywoodien, pour la modique somme de 9 milliards de dollars. Un catalogue qui a plus de 5000 titres dont, enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais entre autres Le Magicien d'Oz, Un Américain à Paris ou encore Chantons sous la pluie, Sophie.
Ouais, bref, une véritable aubaine pour Amazon qui donc essaye de rivaliser avec Netflix et Disney+.
Et de trouver du contenu attractif.
En France, on le disait, les spectateurs sont dans les salles avec une véritable fin de cinéma et puis une montée en puissance des sorties. À l'affiche mercredi prochain, notamment Petite Maman de Céline Sciamma, un beau film sur le deuil et la consolation. Et puis Playlist, un autre premier long métrage, celui de l'autrice de bande dessinée Nine Antico, le portrait d'une jeune femme de 28 ans, Sophie, incarnée par la fougueuse Sarah Forestier, qui se cherche professionnellement et amoureusement.
Je ne veux pas précipiter les choses.
Non, mais t'as raison.
C'est pas contre toi, hein. Je sors d'une longue relation, je suis pas sûr de pouvoir gérer.
J'ai pu rencontrer Nine Antico et je lui ai demandé si cette Sophie, c'était un peu elle, il y a 10 ans.
Bah oui, c'est un film d'inspiration très personnelle. Après, c'est romancé aussi, enfin c'est fictionnalisé. C'est-à-dire que c'est pas ma trajectoire exacte, mais c'est des bribes de choses. De la même façon que les personnages, il y en a aucun qui existe tel quel. C'est plutôt un rassemblement d'émotions ou de personnes multiples que j'ai combinées pour que ça fasse un film d'1h20 rythmé, plus rythmé que parfois la vie qu'on a, qui pourrait être un peu tassée, quoi, en fait. Donc c'est très personnel.
Et en même temps, je sais pas si on peut parler de générationnel, mais je pense que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver dans ce côté recherche, enfin difficulté à trouver sa place aussi, même si on sent que Sophie, elle est pas paumée au sens où elle a des envies, enfin elle sait quand même vers quoi elle veut tendre, et amoureusement d'ailleurs, et professionnellement, mais elle a du mal à trouver, à s'insérer.
Oui, c'est vrai. Après, j'arrive pas à me rendre compte si c'est générationnel, parce que j'ai l'impression que ce personnage, il aurait pu exister à n'importe quelle époque, en fait, et qu'il y en a eu des personnages comme ça, que ce soit au cinéma ou en littérature. Donc cette envie d'être libre, moi je pense à plein de personnages, de Jeanne Moreau, de Bernadette Lafont, enfin c'est une quête qui a existé de tout temps. Après, ce qui appartient peut-être plus à notre époque, c'est qu'on a l'impression que les lignes, il faut les tracer plus vite et de manière plus ferme, alors qu'on pouvait zigzaguer, j'ai l'impression, la société, l'économie le permettait plus avant, quoi.
C'est amusant, Nine Antico, vous parlez de Jeanne Moreau, Bernadette Lafont, deux des actrices de la Nouvelle Vague, et on pense, même si c'est un film ultra contemporain, Playlist, évidemment, à la Nouvelle Vague, avec l'utilisation du noir et blanc et de la voix off.
Oui, mais c'est complètement voulu. J'aime que le film soit intemporel, qu'on puisse l'imaginer n'importe quand. Et alors la voix off, c'était quelque chose que j'avais décidé depuis le début de l'écriture du scénario. J'adore. Je pense que ça me vient. J'ai été très marquée par Jean Rochefort qui présentait Winnie l'ourson dans son fauteuil en osier. Et je crois que il y a un peu ce côté-là, genre assis-toi et je vais te raconter une histoire. Il y a la voix off aussi, son importance en bande dessinée. Je pense que j'aime bien la piste qu'elle donne, qui est pas forcément celle du in, en fait. Il y a donc cette voix off qui, d'ailleurs, elle commence dans le film sur une piste qui est vraiment celle de l'amour, alors qu'au fur et à mesure du film, on va être orienté ailleurs. Et j'avais envie de jouer avec ça, avec le fait que c'est une voix masculine, alors qu'on est avec un personnage principal féminin qui a un déplacement à un moment donné du film. On ne sait plus qui est cette voix. Enfin, on se demande si elle appartient à quelqu'un de précis dans le film. J'avais envie de jouer avec ça, ne pas enfermer le film quelque part, en fait.
Et puis évidemment, la musique joue une grande importance. Notamment, il y a un titre de Daniel Johnston qu'on entend à plusieurs reprises comme un leitmotiv. Ça, c'est presque viscéral.
Oui, la musique, elle était encore plus au premier plan dans d'anciennes versions du scénario, où elle orientait vraiment le goût de Sophie par rapport aux autres, à ses relations et surtout avec ses relations amoureuses. Ça venait de la question qu'est-ce qu'il faut partager avec quelqu'un pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que des fois l'alchimie, elle est plutôt mentale et elle n'existe pas du tout au niveau chair, et l'inverse, quoi. Et j'ai déplacé dans le scénario, c'est devenu moins au premier plan, mais j'avais envie de garder cette idée, et elle résiste avec l'un des personnages qui s'appelle Benjamin dans le film. Et puis moi, il y avait cette volonté, un peu comme dans les films de Scorsese dans lesquels j'ai baigné, quoi, que la musique emporte tout d'un coup une scène qu'elle multiplie par 10 une sensation, une émotion. Et moi, la musique tient une place assez importante dans ma vie. Ouais.
Nine Antico, la réalisatrice du très rafraîchissant Playlist, à l'affiche des cinémas français mercredi prochain. On termine cette émission dans l'océan Indien, Faire découvrir le cinéma aux élèves mahorais, c'est l'objectif de la FEMIS. La prestigieuse école française de cinéma accompagne des élèves de terminale du lycée des Lumières à Mamoudzou dans le cadre des Cordées de la Réussite. C'est un dispositif du ministère de l'Éducation nationale. Tous sont des élèves en spécialité cinéma. Pour leur projet de fin d'année, ils doivent réaliser un film et sont accompagnés par un ancien de la FEMIS. Reportage à Mamoudzou de Yoram Meloul.
Silence, moteur.
Ça tourne.
Dans une petite cuisine au carreau blanc, éclairée par un néon, six terminales du lycée des Lumières de Kaweni ont installé un plateau de cinéma.
Action.
Ils tournent la dernière séquence de leur film, l'histoire d'un couple ruiné par le confinement. Le mari sombre dans la folie et commence à frapper sa femme.
Oh, d'où tu me ramènes un gosse? Oh, je te parle, d'où tu me ramènes un gosse? Sale pute, prends facile là.
Les coups, c'est Saouda qui les prend. L'élève joue Aïcha, la femme battue. Sa première expérience de tournage est plutôt réussie.
Les gens qui sont là, c'est comme si moi je les vois plus. Je me concentre sur Aïcha, je suis Aïcha et j'essaie de ne pas voir le perchman ou j'essaie de ne pas regarder la caméra.
Les six élèves sont accompagnés par Clément Schneider.
Est-ce qu'on peut imaginer que Aïcha soit dans un état de détresse tel qu'en fait... elle va prendre un couteau. Je suis très drama. Mais pour se suicider, elle...
Réalisateur et producteur, c'est un ancien étudiant de la FEMIS. L'école de cinéma l'a envoyé à Mayotte pour encadrer une classe de 22 élèves pendant un mois.
Ça permet en fait de balayer le spectre des formations qui existent, mais aussi de raconter comment on devient cinéaste, qui est forcément un peu abstrait en fait quand on a 17, 18 ans.
Il est ravi de la journée de tournage.
Même si on est dans un dispositif qui est un dispositif lycéen, là je vois des cinéastes qui ont un geste de cinéma. Et je trouve ça magnifique de le voir. Et aujourd'hui, en tout cas, c'était très émouvant.
L'objectif est aussi de faire découvrir les différents métiers du cinéma. Son prénom le destinait à être acteur, mais il est caméraman. Antonio Banderas n'a jamais mis les pieds dans un vrai cinéma. Le seul qui existe est dans le sud de l'île et vient tout juste de rouvrir.
Avant, j'étais à Madagascar. Là-bas, il y a des petits cinémas, mais ce n'est pas vraiment des salles de cinéma. C'est juste un truc improvisé comme ça dans la rue. Et ici, c'est trop loin en fait. Moi, j'habite en Machkavo et Chelongui, c'est très très loin.
Gilles Collin le regarde répondre d'un air attendri. Il encadre les classes spécialisées cinéma au lycée des Lumières et est impressionné par ses élèves.
La première séquence, quand on est venu dans cette même maison, personne n'était prêt, ils sont arrivés en retard. Et petit à petit, on voit l'évolution, c'est formidable. Et là, tout a roulé aujourd'hui. Dès la première minute, ils étaient prêts. Et voilà, et c'était pourtant de loin les séquences les plus dures, vous avez bien vu. Ça a été une expérience formidable, je pense qu'ils en garderont un bon souvenir. Moi, c'est sûr.
Les élèves veulent continuer le cinéma, mais vont devoir partir en métropole après le bac. À Mayotte, il n'existe pour l'heure aucune formation. Yoram Meloul, Mamoudzou, RFI.
Voilà, je vous voyais vous exclamer, Nora Marty-Rossian, parce que Clément Schneider, qu'on entendait dans ce reportage, c'est aussi une tête pensante de l'acide à la sélection.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Qui a pris donc, et si le vent tombe, une des sections de Cannes. C'est à Mayotte que s'achève notre voyage qui a démarré à Stepanakert dans le Haut-Karabakh avec vous, donc Nora Marty-Rossian. Merci.
Merci à vous.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons avec Mamadou Dia pour parler de son très beau premier film, Le père de Nafi. D'ici là, bonne semaine à tous.